Je suis totalement
satisfaite. Moi, j'ai été convaincue au cas d'engage. Je pense qu'on peut, en combinant les deux stratégies de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Merci de suivre Radio Capi qui vous propose Parole aux auditeurs. Selon le rapport mondial du ministère américain des Affaires étrangères sur les trafics humains de 2015, la République démocratique du Congo, RDC, est une source, une destination et un pays de transit pour les hommes, femmes et enfants soumis au trafic sexuel, humain et trafic d'organes. Cela justifie la position de la RDC comptée parmi les pays africains à fort trafic humain dans les classements internationaux des pays dans la lutte contre ces fléaux. Comment lutter efficacement contre le trafic des êtres humains en RDC? 081 890 7315, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct dans cette émission mise en onde par Hippolyte Kapanga. Julie Fezabongonda assure la gestion du standard. Jir Longembo est à la réalisation et coordination. Et Pierre Lamézu vous la présence de la supervision de Martin Sebouzang, fidèles auditeurs. Bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net. Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Les trafics des êtres humains, nous allons essayer de comprendre ces concepts, mais aussi dégager ensemble des pistes et des solutions, que ce soit dans notre milieu, dans la communauté, dans les zones minières où les enfants sont exploités, sont des fois vendus comme des esclaves sexuels, les autres sont utilisés dans les travaux forcés, mais il y a aussi des adultes qui sont victimes de même phénomène, que ce soit dans la capitale à Kinshasa, que ce soit dans les provinces qui sont frontalières d'autres pays africains. C'est la situation au centre de notre débat de séjour. Nous avons associé deux invités de manière exceptionnelle dans cette émission. D'abord, nous avons Florence Boisin-Roumestan, présidente de l'ONG Justice et Équité. Florence, bonjour et bienvenue.
Merci, bonjour.
Mais nous avons aussi Janvier Mourahiri, qui est le secrétaire exécutif de la coalition des organisations de la société civile anti-esclavagiste. Et vous êtes basé à l'est de la République démocratique du Congo. Janvier, bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Nous recommençons avec vous, Florence. Pourriez-vous nous dire dans quelques mots ce qu'est que la population comprend par le trafic des êtres humains?
Moi, je crois que c'est très important, effectivement, d'aller dans la définition, parce que beaucoup de gens ignorent et en fait, ils vivent des situations autour d'eux de trafic humain. En fait, le trafic humain, si vous remplacez le mot trafic humain par esclavage, vous êtes des temps modernes, vous allez peut-être comprendre un peu plus. Beaucoup de gens sont étonnés en disant de l'esclavage encore chez nous au Congo ou sur la planète. Bien oui, il y a énormément de situations où les gens sont forcés à travailler ou avoir des relations sexuelles avec d'autres personnes moyennant de l'argent, avec des proxénètes, où donc il y a la prostitution forcée, il y a le travail forcé, il y a aussi les enfants qui sont kidnappés, beaucoup, pour des rançons ou kidnappés pour l'adoption internationale. Il y a les mariages forcés, où on ne sait plus où sont les enfants qui ont disparu et, du territoire. Donc, il y a aussi les enfants soldats et les esclaves sexuels auprès des militaires et des rebelles. Donc, c'est une liste qui est très, très longue. Les enfants qu'on a déclarés sorciers, qui sont vraiment des proies trop faciles pour les trafiquants. Les chengues qui sont dans la rue ou les maïbobos dans l'Est, qu'on utilise dans les trafics de drogue ou qu'on utilise aussi avec les mendiants, comme on voit actuellement à Kinshasa, où on récupère les handicapés de toutes les provinces et on les fait mendier dans la rue entre les voitures par des petits enfants qui bien sûr vont pas à l'école. Et tout ça, il y a des trafiquants derrière qui récupèrent l'argent. Donc, c'est vraiment beaucoup, beaucoup d'aspects concernant cette définition du trafic humain.
Mais dans ce rapport du ministère américain des Affaires étrangères, on dit que la RDC est une plaque tournante aujourd'hui. Quels sont les facteurs qui ont favorisé, qui ont fait que la RDC soit aujourd'hui au centre de ces trafics des êtres humains?
Bon, pour l'amour de l'argent, ça, les gens, ça a toujours été, ça fait partie des, je dirais, des facteurs essentiels. Il y a beaucoup de, malheureusement, il y a beaucoup de mamans qui rentrent dans cette complicité pour avoir de l'argent. Donc, parce qu'on échange, et c'est une, l'être humain est devenu une monnaie d'échange pour gagner de l'argent. Donc, maintenant, c'est à un point, encore hier, une petite fille de 2 ans qui a été kidnappée, et bien sûr, on l'appelle, et on appelle la maman pour avoir de l'argent. C'est beaucoup le cas dans l'Est aussi, où j'ai travaillé dans l'Est.
Vous avez évoqué la région de Grand Lac et l'Est. Janvier Mouraïri, vous êtes le secrétaire exécutif de la coalition des organisations de la société civile anti-esclavagiste. Faites-nous un peu le tableau de cette situation de trafic des êtres humains, surtout à l'Est avec la guerre, l'insécurité, l'exploitation illicite des minerais.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste, de la question. Ça fait maintenant 5 ans que je travaille sur la question de l'esclavage moderne ou du trafic des êtres humains. Et à un moment donné, quand j'ai commencé le travail, je me disais que je ne travaille pas sur une question inexistante, en fait. Parce que dans la mémoire collective, les gens pensaient que l'esclavage avait disparu avec la négritude, avec la traite ou le commerce triangulaire ou la colonisation. Bon, mais avec les lunettes anti-esclavagistes que nous portons actuellement, nous sommes en train de découvrir beaucoup de formes modernes d'esclavage. Et comme Madame Roumestan venait de le dire, récemment, la coalition a produit un rapport sur l'état de l'esclavage au Nord Kivu. Et nous avons constaté qu'il y a beaucoup de cas de kidnapping. Je crois que Radio Okapi documente également et donne des informations par rapport à ça. Et les gens sont kidnappés et amenés en brousse dans la forêt et pour leur libération, il y a des rançons qui sont exigées, qui vont jusqu'à au-delà de 5 000. Donc, tout dépend du rang social de la personne qui a été kidnappée. Et la personne kidnappée perd sa dignité humaine, en fait. Et elle devient comme un objet. Et donc, l'esclavage, comme elle l'a défini, c'est que la personne perd sa dignité, elle devient comme un objet. Et le bourreau peut en faire tout ce qu'il veut. Et c'est des cas très fréquents. Et nous travaillons également dans les secteurs de l'exploitation artisanale des minerais. Et à un moment donné, nous avons documenté beaucoup d'enfants qui étaient exploités du matin au soir par leurs patrons et qui ne pouvaient recevoir comme salaire que soit un beignet et s'ils ne travaillent pas et soumis à la torture, soumis à beaucoup d'autres violations des droits humains. Il y a également les phénomènes de l'exploitation sexuelle l'exploitation sexuelle des jeunes filles. Et à Goma, à l'Est, par exemple, et même dans beaucoup d'autres villes de l'Est, vous trouvez des maisons de proxénétisme où les filles, il y en a qui sont importées du village et amenées dans les maisons où elles subissent toutes les formes de violations et notamment l'esclavage sexuel. Ce sont des cas que nous avons également documentés. Il y a également ce qu'on appelle les phénomènes EAFGA, enfants qui sont utilisés dans
les groupes armés.
Ils sont utilisés comme des boucliers et qui ne peuvent pas partir. Nous avons également documenté ce genre de cas des enfants qui sont exploités dans les forces et groupes armés. Donc, l'esclavage, en fait, il ne faudrait pas que les gens définissent l'esclavage dans le passé. L'esclavage, c'est un phénomène vivant. Je viens, avec la petite expérience de circuler dans la vie, Bon, j'ai trouvé des cas qui peuvent passer comme anodins,
mais ici à Kinshasa.
À Kinshasa.
Mais qui sont en fait une forme d'esclavage, oui. On ne le sait pas.
Vous voyez, un enfant par exemple qui est en train de mendier, et je me demande, accompagné par quelqu'un, il est en train de mendier, et je me demande si cet enfant peut avoir l'occasion d'étudier, et si cet enfant est-il payé.
Voilà, ça, ce sont des cas comme ça. Mais il y a des cas, j'ai vu dans le rapport, quand on voit que c'est quand les États-Unis parlent, Madame Romestan, il y a cette question de l'adoption aujourd'hui qui fait aussi débat avec des soi-disant orphelinats. Il y a des cas ici à Kinshasa, des enfants qui sont amenés dans des orphelinats, après on apprend qu'ils sont déjà aux États-Unis. Est-ce qu'il y a eu des cas sur lesquels vous avez travaillé comme ça, que ce soit à Kinshasa, ailleurs,
Pas qu'à Kinshasa. Bien sûr, Kinshasa rassemble tout le monde parce qu'il y a l'aéroport international. Mais dans toutes les provinces, il y a des fonds d'orphelinats où on kidnappe les enfants. On a des cas précis. On a documenté, on a des audios, on a des vidéos. Justement d'enfants et de parents qui ont vu leurs enfants kidnappés pendant un an, deux ans, et que finalement ils savent quelque part qu'ils sont dans un orphelinat mais dans une autre province. Le but, comme le papa disait, le virus a muté. Le virus de l'esclavage triangulaire a muté et est beaucoup plus large maintenant. C'est tout le monde qui veut à tout prix avoir de l'argent en utilisant les êtres humains pour récupérer de l'argent.
Merci. 081-890-5535, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct. Christian, vous êtes avec nous dans cette échange. Vous avez suivi l'ampleur de cette situation. Quand on regarde aujourd'hui les descriptions de nos deux invités, cela veut dire que l'esclavage va au-delà de ses compensés dans le temps. Il y a des gens qui pensent aujourd'hui être libres, mais quand on regarde la manière dont les choses se déroulent, la question est vraiment importante. Christian, quel est votre point de vue pour faire face à cette situation? Vous êtes ici à Kinshasa. Bonjour et bienvenue.
Ah, bonjour Pierrot, bonjour aux auditeurs et aux invités. Moi je pense que les pays occidentaux doivent arrêter de venir faire les statistiques de tous ces morts, de tous ces fléaux. Et ils doivent arrêter de venir classer la FDC parmi les numéros tels, numéros tels de ceci, cela. En fait, ils sont à la base de la misère qu'il y a en Afrique en général et en RDC en particulier. Parce que nous ne pouvons pas comprendre pourquoi les pays africains ne peuvent pas décoller après plusieurs années de indépendance, si ce n'est pas les Occidentaux qui empêchent que l'Afrique puisse se développer. Et ils connaissent les causes, ils connaissent les raisons de tous ces maux, de tout ce que nous vivons ici, c'est la pauvreté, c'est la misère, mais ils viennent seulement faire les statistiques et les classements. Là, moi, je n'ai jamais été d'accord avec ça. Parce que si eux, ils ont la volonté de mettre fin à cela, ils vont aider ces pays à mettre fin à toutes ces atrocités que nous vivons. Ils l'ont fait, parce que ils l'ont déjà fait ailleurs. Cette histoire-là, c'est comme la drogue, c'est comme la mafia, c'est pas quelque chose qui est organisé par un gouvernement pour qu'on en parle comme si c'était un gouvernement qui organise ça, qui autorise ça. Mais si ils ont réussi à aller enlever nos regards de Panama pour les mettre en prison parce qu'ils soutenaient la drogue, et ils peuvent faire beaucoup de choses aussi dans d'autres pays. Ces gens-là qui viennent faire l'esclavage dans les mines là-bas ou dans l'exploitation des minerais à l'Est, ces gens-là qui viennent faire la guerre à l'Est, ils sont soutenus par qui? Pourquoi d'autres pays doivent être envahis comme ça pendant des années par des armées étrangères et qu'on appelle des rébellions? Alors, ou bien aussi de ces occidentaux, alors ils ont les moyens de pacifier le Congo et l'Afrique. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Que les ONG peuvent comprendre à tous ces occidentaux-là qu'on doit laisser chaque pays libre et que les gens doivent s'autodéterminer et les gens doivent jouir de leurs richesses et les gens doivent vivre comme Dieu a voulu qu'ils vivent.
Mais Félicien, il y a quand même cette question, il y a la responsabilité, vous l'avez dit, la communauté internationale, si on peut prendre en termes de pays occidentaux, vous l'avez dit, ils ont le part des responsabilités de comment pouvoir assister les pays africains, et la RDC en particulier, à mettre fin à ce genre de phénomènes. Il y a le problème de la guerre, les interventions, tout ce qu'ils doivent faire. Mais quand on regarde aujourd'hui toutes ces formes d'exploitation, de jeunes filles, des enfants, toutes ces formes d'esclavage, comme on l'a dit, au niveau de nos communautés, vous avez évoqué la pauvreté, au-delà des tout, quelle est notre part de responsabilité à nous dans le phénomène et dans sa lutte, au-delà de la responsabilité des Occidentaux dans tout ce que nous pensons comme malheur qui arrive dans nos pays.
Oui, c'est vrai. Mais nous avons notre part de responsabilité. Mais d'abord, c'est la pauvreté qui amène les gens à faire cela. Mais les gens sont parfois même amenés à eux-mêmes accepter cet esclavage-là parce qu'ils ne savent pas comment vivre. Mais quand nous avons des problèmes de gestion de nos ressources, quand nous avons des problèmes de maîtrise de tout ce que Dieu nous a donné, mais qui amène ça? Mais c'est d'abord les Occidentaux, c'est d'abord la communauté internationale. Moi, je pense que si nous avons à nous répartir la responsabilité des Congolais même est moindre par rapport à la responsabilité de la communauté internationale. Mais c'est vrai que nous avons un problème d'éthique et de morale, nous avons un problème d'antivaleur chez nous, nous avons un problème de la mal-gouvernance, mais tout cela, c'est d'abord soutenu par les Occidentaux. Et on ne vienne pas nous donner des leçons, mais qu'on puisse nous aider à réussir un décollage et un développement, parce que nous avons tout vraiment pour vivre mieux malgré les Occidentaux.
Merci, Félicien. Maître Adrien, vous êtes à Kananga. Pensez-vous aujourd'hui, comme le disait Félicien tout à l'heure, que la question vient d'abord du fait que ce sont ces pays occidentaux qui font des rapports sur la question de la RDC, qui devaient en principe aider la RDC à se ressaisir, parce que la cause de tout ce trafic des êtres humains, de toute cette exploitation de jeunes filles, de ces enfants qui travaillent dans les mines, de cet esclavage moderne, c'est la pauvreté, et la pauvreté est née de la mal-gouvernance, de marque d'éthique et de morale sur le plan politique, c'est ce qui apporte tous ces mots. Alors, Adrien, pensez-vous que la situation soit seulement de considérer que les Occidentaux doivent nous aider, mais nous, déjà, avec les structures que nous avons, quelle est notre part des responsabilités, qu'est-ce que nous pouvons faire pour faire face à cette situation, Adrien?
Oui, bonjour Pierrot, bonjour à nos invités. Je ne suis pas d'accord avec cette stigmatisation de mon compatriote Félicien. Pourquoi s'attaquer à la communauté internationale? Parce que lorsque nous lisons tous attentivement ce rapport, moi je me dis que c'est un rapport qui vient donc nous réveiller de notre profond sommeil. Parce que lorsque on nous dit, voilà, il y a telle situation qui se passe en République démocratique du Congo, pendant que nous-mêmes nous sommes conscients, parce que même ici et à Kananga, nous assistons à ce genre de disparitions des enfants. Vous apprendrez que non, il y a un cargaison qui a été arrêté, donc intercepté au niveau de la province sœur, donc la province du Kasaï orientale par les services de sécurité, et dedans on croyait que c'était de la marchandise, mais c'était des êtres humains, donc les enfants qu'on récupérait, parce que ces gens-là opèrent dans des écoles, lorsque les enfants sortent comme ça, on les récupère, non, voilà, entrez dans cette équipe pour que nous puissions vous ramener chez vous à la maison et se porter disparu. Lorsque vous passez à la division des affaires sociales, à l'UNICEF, au niveau de la police, donc de la protection pour enfants, vous allez vous rendre compte qu'il y a des plaintes, il y a des cas qui se passent de ce côté-là, donc les parents qui réclament donc les enfants qui sont disparus. Donc moi je pense que le rapport, il est bon, il est vrai, il vient nous réveiller. Et nous ne sommes pas là pour dire que non, voilà, c'est la communauté internationale, parce que la sécurité des personnes, c'est d'abord un pouvoir reconnu par un gouvernement. Il n'appartient pas à la communauté internationale, ni moins encore aux pays occidentaux de venir nous gérer ou bien encore créer des emplois. c'est vrai que les raisons externes créées, invoquées à gauche, à droite, peuvent tenir debout, mais malheureusement, ce n'est pas ça. Mais Pierrot, là où je ne suis pas quand même d'accord avec cette façon de faire de nos amis qui sont au studio, c'est lorsque l'un d'entre eux a épinglé le cas de l'Est de Goma pour dire que non, non, il y a eu des maisons à gauche, c'est bien répertorié dans notre rapport, donc le professionnalisme. Donc moi je pense que ce sont des formes de violence sexuelle prévues par la loi congolaise. Est-ce pourquoi nos amis là ne se sont-ils pas adressés à la justice congolaise? Parce que lorsque on a répertorié ces cas, c'est-à-dire qu'ils ont des preuves palpables, il appartient maintenant à la justice congolaise de réprimer ça et pour décourager ce genre de
Oui, Maître Adrien, vous avez dit que vous auriez souhaité que les ONG puissent apporter des cas qui sont avérés à la justice, et vous êtes avocat, vous êtes à Kananga, au barreau. Est-ce que vous avez déjà eu à faire face à ces genres de cas, des enfants kidnappés ou soit des enfants vendus dans les prétendus orphelinats aujourd'hui, des enfants qui sont partis des Kananga vers Kinshasa, par exemple, exploités sous une autre forme? Est-ce que des parents ont-ils déjà dénoncé, et vous avez-vous eu l'occasion une fois de faire face à ces genres de situations à Kananga en tant qu'avocat, Maître Adrien?
Oui, Pierrot, nous faisons face à cela, mais nous sommes butés à une difficulté de preuve, parce qu'il y a des plaintes, comme je vous ai dit, il y a des parents qui se plaignent, non, mon fils, donc, ne te laisse pas voir, et ainsi de suite. Mais maintenant, la justice kanangaise est butée à une difficulté de preuve. C'est comme ça que, lorsque j'ai suivi l'un de nos invités dire que non, non, on a des preuves de maison à gauche, à droite, ce sont ces cas-là, même nous ici, non seulement de la justice, mais dans le cadre de la société civile, parce que je fais partie d'une structure de la CAGE, nous nous battons pour avoir un peu des preuves matérielles comme ça pour aider maintenant la justice congolaise afin que la justice puisse maintenant se saisir des cas. Mais pour un cas pratique, apparemment nous sommes toujours en difficulté de preuves.
On n'est pas rapport aux preuves. Merci beaucoup, mais vous avez quand même évoqué d'abord la question de l'emploi aujourd'hui, parce qu'il faut lutter contre la pauvreté pour éviter que les parents ne puissent vendre leurs petits de leurs petites filles pour raison de survie. Mais les plus grands problèmes dans ce genre de situations, ce sont des preuves. Le problème des proxénétismes, vous souhaitez que les ONG qui disent avoir des cas concrets puissent les présenter devant la justice, et de cette façon on peut aider la justice à lutter contre ces phénomènes de trafic des êtres humains. Merci beaucoup, M. Adrien, de nous avoir appelé des Kananga au Kasaï Central. Madame Joséphine, vous êtes à Boston aux États-Unis d'Amérique. Merci de vous être dérangée à 7h. Je crois bien qu'il doit faire peut-être très tôt ou la nuit encore aux États-Unis pour intervenir dans la parole aux auditeurs. Bonjour madame et bienvenue.
Bonjour Radio Capi, merci de m'avoir passé la parole. Je salue à la dame qui est sur le plateau et notre compatriote du Kivu là-bas. Je les remercie de leur rapport, mais je vais dire ceci. Comme le premier intervenant a dit, il faut pas faire il faut pas jouer à l'hypocrisie. Vous savez, les Occidentaux viennent. Je vais prendre un exemple. Ils viennent ouvrir le robinet et puis l'eau coule. Et puis ils vont au-delà de la barrière pour constater qu'il y avait de l'eau qui est en train d'aller chez les voisins, déranger les voisins. Mais il faut rentrer au robinet et fermer le robinet. Parce que vous ne pouvez pas seulement dire, oh, il y a l'eau qui dérange chez les voisins. Ou bien il y a l'eau qui va faire glisser les passants sur la rue. Parce que c'est vous qui avez ouvert le robinet là. Il faut arrêter avec l'hypocrisie. La dame est venue, je ne sais pas si elle est de quelle nationalité, pour venir constater, faire des statistiques. Elle pouvait aussi nous aider avec les statistiques qu'elle a données à la CENI. Comme ça, nous faisons les élections libres et correctes. Les Occidentaux, ce sont eux qui achètent, par exemple, ils achètent les minerais. Ils achètent les minerais sans pour autant, au Kivu, là-bas, quelle entreprise qui produit les minerais comme la Gécamine au Katanga? Il n'y a pas d'entreprise. Donc, ils viennent acheter d'abord les minerais là où il n'y a pas l'entreprise. Qu'est-ce que vous expectez? Il y aura les enfants, il y aura les femmes qui devaient aller au champ. Tout le monde va arrêter pour aller faire le minerai. Je ne veux pas minimiser l'enfant qu'on a pris pour envoyer ou bien qu'on a volé. Je ne veux pas minimiser le cargaison qui passe à Kananga là-bas pour prendre les gens et puis ils vont disparaître. Mais moi et mon mari, nous avons terminé, on a fait nos études à Lubumbashi, nous avons terminé des licenciés. Et puis on a quitté le Congo à cause des conditions. Nous sommes venus ici des licenciés. Qu'est-ce qu'on a fait? On est allé travailler dans des hôpitaux, on a travaillé dans des stations d'essence, des licenciés. On est venu ici apprendre l'anglais, parce que nous, on a étudié en français. Heureusement que leur pays, ils ont organisé pour que même l'intelligence, nous, on est licenciés, on est venus ici, mais on se retrouve aujourd'hui. Mais au début, quand vous commencez les premières 5 années, vous pleurez, vous voulez rentrer chez vous. Il y a aussi l'esclavage d'intelligence. Nous venons ici avec nos enfants. Nous avons les enfants ici, qui sont très, très intelligents à cause des conditions qu'ils ont trouvées ici. Et nos enfants vont rester ici pour travailler ici, pour amener leur pays à avancer. Et nous, les Congolais intelligents qui ont quitté le Congo, on est ici. Et moi, je vais dire ceci, madame, au lieu de faire des statistiques, rentrez dans vos pays, allez demander à vos chefs d'arrêter tout ce qui se passe au Congo. De guider le Congo à avoir un gouvernement crédible. Nous voulons l'état de droit. Par exemple, quand il y a eu les élections en 2011, il y a eu des élections frauduleuses. Pourquoi vous n'êtes pas venu intervenir? Venez nous aider, aider le Congo.
Alors, je crois bien, Madame Joséphine, vous avez des soucis. Les soucis, c'est de voir la part de la responsabilité. Le rapport est fourni par le ministère américain des Affaires étrangères qui estime qu'il y a la RDC doit fournir beaucoup d'efforts. Et dans ces efforts, vous estimez qu'il serait mieux que le pays occidental puisse aider le pays africain, la RDC en particulier, à pouvoir asseoir la gouvernance et l'état des droits quand il y aura de l'emploi, quand les minerais seront exploités d'une manière légale, ça pourra mettre fin à tous les trafics. Et là, vous avez raison, c'est le qui a dit non, mais dans tout ce qui arrive aujourd'hui, il y a la part des pays occidentaux, mais vous avez évoqué les mêmes verbes que Félicien, venez aider la RDC, c'est peut-être dans ces cas aussi qu'il y a tous ces rapports qui sont fournis, on va voir ensemble avec nos invités pour permettre à ce que la RDC arrive vraiment à mettre fin à cette situation. Merci beaucoup, je vous ai fait de nous avoir appelé de Boston aux États-Unis d'Amérique, 081-890-6315. Maître Conville, vous gardez la ligne, vous êtes à la compagnie. Nous allons revenir à vous.
Parole aux auditeurs.
Et voilà, nous avons Paul Kabeya, secrétaire exécutif du RODESIC, réseau d'organisation des droits humains et d'éducation civique d'inspiration chrétienne. Vous êtes ici à Kinshasa. Les compatriotes estiment que cette question, c'est une question d'abord de la responsabilité des étrangers qui doivent aider la RDC à améliorer sa gouvernance pour mettre fin à ce fléau. Mais aujourd'hui, sur le terrain, comment la lutte contre ces phénomènes d'esclavage, des trafics des êtres humains est-il organisée aujourd'hui? Est-ce qu'il y a vraiment un travail concret qui s'est fait aujourd'hui pour qu'enfin des enfants soient protégés, des femmes soient protégées et des êtres humains soient quand même protégés à Kinshasa, par exemple?
Je dirais, pour aller vite en besogne, que jusque-là, le terrain est encore vierge. Il n'y a pas dynamique dans le sens de la lutte. Voilà pourquoi l'Eurodesic s'intéresse à cette question, parce que il a eu à documenter quelques cas et il continue à en mûrir d'autres.
Et quand vous dites que vous avez documenté quelques cas, cela veut dire quoi? Quelle forme d'esclavage ou de traite des êtres humains?
L'esclavage des êtres humains au Congo apparaît sous toutes ses formes. C'est ce qu'il faut d'abord retenir. Mais le cas le plus médiatisé, c'est le cas de l'adoption internationale.
Mmh.
Nous avons vu comment il y a eu beaucoup de pression sur cette question. Et vous conviendrez avec moi que nous avons une administration qui a des faiblesses, ce qui fait que les gens obtiennent facilement des documents pour dire qu'ils ont fait des bonnes adoptions. Alors, ce n'est pas le cas.
Mm-hmm.
Au Rhodésie, nous avons reçu des cas, des enfants qui étaient dans des orphelinats et qui étaient même prêts à être acheminés dans certains pays, qui ont pu trouver un moyen de se sauver, alors que les parents qui sont là recherchaient les enfants, et ces enfants n'ont pas été adoptés parce que les parents ne connaissaient pas cela. Et vous vous rappelez que le ministre de la Justice a reconnu qu'il y a un problème pour les adoptions. Lorsque les enfants sont adoptés, il n'y a pas de suivi. On ne connaît pas leur sort par la suite. Alors, c'est ainsi que je voudrais aussi répondre à certains de nos compatriotes de cesser à jeter les pierres aux étrangers. Nous, comme on dit, aide-toi et ciel t'aidera. Donc, nous-mêmes, Congolais, nous devons nous investir pour combattre ces trafics.
Mais les Congolais doivent s'investir. Madame Rostand, vous avez suivi Félicien et Thomas très prêché. Madame, je suis la même chose. Mais écoutez, vous ouvrez les robinets, après vous voulez arrêter l'eau quand vous vous rendez compte qu'il y a déjà inondation, que ce soit dans les trafics dans les secteurs miniers. Ce sont des firmes occidentales qui achètent ces minerais qui proviennent des zones où les enfants sont exploités. Mais d'un côté aussi, il y a la communauté internationale, il y a quand même le rôle des ambassades dans cette question. On ne peut pas sortir avec les enfants, l'amener aux États-Unis sans que l'ambassade des États-Unis à Kinshasa soit informée pour donner un visa. Mais si un enfant part d'un pseudo orphelinat à Kinshasa et se retrouve aux États-Unis, quelle est la part des responsabilités de ces pays occidentaux?
Bon, déjà pour commencer, la chose que j'ai toujours rencontrée, moi ça fait 16 ans que je suis dans la région des Grands Lacs, mm-hmm. et maintenant je suis canadienne puisqu'à la maman demandait ma nationalité, récemment à Kinshasa. Je crois qu'en tant que maman, personne ne peut nous empêcher de sensibiliser des situations aussi horribles que sur les enfants. Ça dépasse largement la nationalité. Peu importe, moi je suis maman et grand-maman, et donc tous les enfants sont mes enfants. Donc, si je me rends compte que, au fur et à mesure, moi-même je suis croyante et chrétienne, donc au fur et à mesure je me suis rendu compte qu'il y avait une exploitation absolument abominable des enfants, bon, on n'est pas bloqué par les frontières. Deuxièmement, le rapport américain il n'est pas que pour le Congo. Le rapport américain il est même sur eux-mêmes, sur les États-Unis et sur tous les pays de la planète, et je dis merci aux Américains parce qu'il n'y a que eux qui ont eu le courage et qui ont mis les moyens pour aller faire des recherches partout dans tous les pays de la planète. Donc il faut arrêter aussi constamment de montrer du doigt et d'être extrêmement négatif vis-à-vis des gens qui font quelque chose. Même s'ils considèrent que ce n'est pas bon, ils ne donnent des leçons à personne parce qu'ils se donnent eux-mêmes des leçons. Nous-mêmes, pendant des années au Canada, c'était une catastrophe. Et c'est seulement au niveau international, alors que ça existe depuis le protocole de Palerme, existe depuis l'an 2000, ça peut dire que franchement, en Amérique du Nord, c'est depuis très peu de temps, quelques années, peut-être 4-5 ans, qu'on commence à avoir des gens efficaces au niveau des autorités publiques pour lutter contre ce fléau. Mmh. Mais moi, je suis désolée, mais ça n'empêche pas quelqu'un qui est au courant qu'il y a un crime de parler. Sinon, ça s'appelle de la non-assistance à la personne en danger.
Mmh.
Donc, si moi, je suis dans la région des Grands Lacs et que je me rends compte qu'effectivement, il y a des choses abominables qui se passent au niveau des enfants, il est tout à fait normal que j'en parle, vu mon expertise, comme avec Papa Janvier depuis plus de 5 ans, que je partage. C'est ça qui est important, c'est de partager en disant, je ne fais pas des statistiques, je ne fais pas de statistiques. Pour ça, moi, je n'ai jamais prétendu faire des statistiques. Je suis sur le terrain. Je me lève les manches, je me salis les mains et je travaille depuis des années à récupérer des enfants et à essayer de sensibiliser aussi bien les journalistes que les autorités. Et aussi bien la société civile. Mmh. Et l'expérience, c'est simplement de partager. Mais j'ai remarqué quand même quelque chose par rapport aux autres pays en Afrique, où je suis allée en Afrique australe aussi. Il y a quand même quelque chose qui revient régulièrement au Congo, c'est on pointe du doigt les autres. Mmh. Et ça, ça ne peut pas marcher. Comme il l'a dit le deuxième interlocuteur, on ne peut pas passer son temps à dire que c'est la faute de l'autre. Moi, je suis désolée, mais quand on dit que la prostitution forcée, c'est les Occidentaux qui ont amené ça, non. Non. Le sexe, il a toujours existé dans toutes les cultures. Donc, moi, je crois qu'il faut être optimiste par rapport à en se disant, bon, de toute façon, mettez de côté les gens qui sont pointés du doigt, mais regardez-vous vous-même. Moi, je le fais pour mon pays. Je peux vous en parler pendant des heures et des heures, très objectivement, de toutes les catastrophes que l'on a au Canada, et encore plus dans le domaine du trafic humain. Mais personne n'est prophète dans sa maison et dans son pays.
Mais alors, par rapport à cette question de l'adoption, Paul Kabéa le disait tout à l'heure, c'est là où on peut évoquer quand même la responsabilité des ambassades, parce qu'un enfant ne peut pas sortir. On sait qu'il y a une faiblesse de l'administration, bien sûr, mais l'ambassade ne peut pas laisser un enfant s'il n'est pas sûr d'avoir les documents qui attestent que cet enfant a été adopté d'une manière correcte.
Bon, on a fait des recherches par rapport à ça, justement, parce que même on a eu, moi-même, j'ai des problèmes avec Rodesic, avec mon ambassade du Canada, qui nous pointe du doigt, parce que nous avons, justement, exposé la situation que vous aviez donnée, vous, au CAPI, en 2013, concernant des enfants qui ont été adoptés, et avec une plainte de l'ambassadeur congolais à Ottawa pour dire mais ces enfants ne sont pas suivis et c'est pas du tout le trajet qu'ils auraient dû avoir, etc. On est en train de faire des recherches et de documenter par rapport à ça. Mais moi, ce que je veux dire, les responsabilités sont doubles.
Oui.
J'ai fait des recherches du côté des parents qui font des grosses erreurs parce que ils sont prêts à avoir des enfants à n'importe quel prix. Ils le font en Asie, où c'est beaucoup plus qu'en Afrique, et ils le font dans plein de pays en Amérique du Sud, en Amérique centrale. Moi-même, j'ai déjà parlé à ses parents en disant, mais on ne choisit pas un enfant, comme on choisit une voiture, sur un catalogue. Et c'est ce qu'ils font. Donc, ils ont fait, au niveau des parents, c'est déjà une erreur. Ils se disent, je peux magouiller le prix pour essayer d'avoir un enfant moins cher que si je passe par les voies légales. Deuxième erreur, parce que c'est vrai qu'en règle générale, les avocats prennent des sommes énormes ici au Congo. Ça peut aller jusqu'à 40 000 dollars. Et même pour voir la photo de l'enfant, il faut d'abord payer 1 800 dollars. Donc, c'est quelque chose qu'il faut aussi réaliser. C'est pour ça que nous, avec Rodesic ou avec la coalition, on propose au gouvernement en disant mais enlevez tous les intermédiaires, enlevez tous ces agences privées. Faites une agence publique pour l'adoption nationale et internationale.
Et ça, je crois qu'on va évoquer cette question dans les propositions des pistes, des solutions plus efficaces pour arriver à mettre fin à cette situation. Mais l'ampleur, quand même, c'est que les gens se font beaucoup d'argent autour et sur les dos de ces gamins, de ces enfants, de ces pauvres
enfants.
On ne sait même pas où l'origine. Ils vont devenir quoi quand ils sont sortis du pays. Et ça, c'est une question. Nous allons revenir à vous aussi, Jean-Pierre, mais il y a plein de gens sur notre standard qui appellent parce que la question elle est vraiment très intéressante. 081-890-6315.
Parole aux auditeurs.
Maître Conville, vous êtes à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, M. Perreux. Bonjour aux deux invités. Bonjour à tous les membres auditeurs de la radio Pacifique.
Et d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, oui, maître, s'il vous plaît, il n'y a pas longtemps, c'est passé sur Radio Capi, hein, la DGM à Kasumbalesta a pu présenter les enfants qui sortaient frauduleusement du Congo. Je crois que les dossiers ont été exploités sur les antennes de Radio Capi. C'est des formations qui étaient parties du Katanga, d'ailleurs.
Oui, il n'y a pas longtemps, qu'on a arrêté les gens au niveau des enfants au niveau de Kachimbalessa, qui devaient quitter le pays pour d'autres cieux. Moi, je commençais par dire ceci. Je ne peux pas incriminer totalement les Occidentaux, parce que ce sont eux qui sont à l'origine de ça. Non, la responsabilité totale n'est pas, pas celle des Occidentaux. Puisque monsieur Pierre, vous venez d'évoquer ici que le service de DGM a saisi au moins un lot d'enfants qui devaient être cédés à l'extérieur. C'est-à-dire que c'est une affaire du gouvernement. Et puis c'est une question qui est transversale. Parce que ici chez nous, nous avons un ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur, nous trouvons la police, la mer, nous trouvons le DGM, nous trouvons la police des frontières. Et si cette police, si ces services ne font pas convenablement leur travail, ce trafic d'êtres humains va continuer jusqu'à atteindre certains horizons. Au-delà de ça, nous avons un ministère de justice. Vous savez que la corruption se fait au niveau de la justice. Mm-hmm. Nous savons que la corruption se fait au niveau de la justice et l'autorisation même parentale qui est présentée devant le notaire de vie, ça se visait dans le ministère de la justice. Or, si ces gens... Allô?
Allez-y, on vous écoute, lui.
Allô?
Oui, allez-y.
Or, si ces gens ici ne sont pas bien encadrés, ils ne peuvent pas faire bien leur travail, mm-hmm. Nous avons des tribunaux pour enfants. Ces tribunaux pour enfants, là où maintenant les greffiers, les juges sont impayés. Comment est-ce que ces gens-là peuvent faire bien leur travail? Nous avons la police pour protection femmes et enfants. Vous savez, monsieur Péro, par rapport à ce sujet, c'est un sujet qui est très pertinent. Puisqu'aujourd'hui, à cause aussi de la défaite, de non-paiement des salaires des parents, de non-paiement des salaires des travailleurs, à cause des problèmes, il y a certains parents qui se donnent totalement à ce café trafic, puisqu'on peut lui proposer 40 000, 50 000, 30 000 dollars, et là, nous n'allons pas interpeller les Occidentaux, puisque ce sont les consciences de ces parents-là qui sont en train de céder à ce trafic. Mais néanmoins, moi, j'estime que dans des pays organisés, le gouvernement devait démissionner, puisque le gouvernement n'a pas su faire son travail par rapport au trafic des êtres humains, et ça fait la honte même de la République démocratique du Congo. On est en train de jeter l'opprobre à cette République. Vous comprenez un peu, la police que nous avons, elle doit détecter tout. La police n'est pas là seulement pour traquer les gens, tout ça, pour faire les manifestations. La police est là pour faire son travail. Au-delà de ça, nous avons le ministère des Affaires sociales. Il y a des ONG qui naissent comme des champignons ici, se transformant en Ferdinand. Il n'y a aucun contrôle. Nous avons des bourgmestres dans différentes communes qui sont appelés à contrôler qui sont encadrés par ces Ferdinands-là, qui sont encadrés par ces ONG-là, puisque le trafic se fait à travers ces ONG. Ils sont impliqués totalement. Est-ce que c'est le problème des Occidentaux? Moi, je ne suis pas. Ça veut dire qu'il y a une certaine faille considérable qui se fait remarquer par rapport à la gestion de la République. C'est ainsi que les enfants sont sacrifiés. Vous comprenez un peu, M. Pierrot. Mm-hmm. Au-delà de ça,
oui, pour il y a
des situations connues au niveau de l'Est là-bas. Il y a aussi le proxénétisme dont on parlait mes prédécesseurs. Mais j'estime que ce sont des maisons d'aisance qui sont connues par les bourgmestres, là où les services de sécurité passent chaque nuit pour contrôler, puisque tous les hôtels ici, les maisons d'aisance, sont contrôlés par les services de sécurité. Et que font les services de sécurité par rapport à la dénonciation de ça? J'estime que c'est ça des solutions. Si on parvient à mettre du sérieux dans l'organisation de la chose de la République, j'estime qu'on mettra fin à ce trafic où nos enfants sont traités, se sont vendus à vil prix pour peut-être avoir quelque chose.
Merci beaucoup, maître Sonville, c'est vraiment important. Vous avez dit, c'est une question transversale, c'est pourquoi il y a le ministère de l'Intérieur, les services de sécurité, le ministère de la Justice, le ministère des Affaires Sociales, l'autorisation même des fonctionnements des orphelinats. Il faudrait quand même qu'on sache qu'on identifie ces orphelinats qui naissent dans le pays, ces ONG qui disent encadrer des enfants, qui regroupent des enfants. On va par exemple le prendre à l'Est pour les Amena qui se savent. Il y a tout ça qui doit être bien contrôlé, mais il faut aussi assurer les conditions de travail de tous ces de juillet qui s'occupent de la question, et comme ça on peut arriver à les mettre du sérieux, à mettre fin à ce phénomène. Merci beaucoup, Maître Sonville. Mais on revient à vous rapidement, Janvier Bouraïri. Maître Adrien Descanaga disait tout à l'heure, mais quand vous avez identifié qu'il y a des maisons closes aujourd'hui dans nos quartiers, et il y a des orphelinats, des pseudo-orphelinats, il y a des enfants qui sont exploités par les uns et les autres dans le minerai, il ne suffit pas seulement de produire les rapports, mais faudrait-il aussi de saisir la justice, de dénoncer un peu rapidement.
Bon, merci beaucoup à tous les intervenants. Pour répondre à la question, je voudrais d'abord dire à Maître Adrien que le travail contre l'esclavage, c'est un processus et qui doit passer d'abord par des recherches, par des sensibilisations communautaires et attaquer finalement les questions de justice. Et donc, au niveau de la coalition, nous sommes en train de travailler avec certains ouvriers de la justice et même des magistrats pour les amener effectivement à adresser, en fait, dans leurs actions, les questions d'esclavage. Parce que, je vais un peu vite, je danse plus vite que la musique. Hein. Donc, on a trouvé que il y a certains professionnels de droit qui ont difficile aussi à identifier les cas d'esclavage. Et donc, c'est d'abord important de faire d'abord un travail pédagogique pour que demain, quand un magistrat est saisi d'un dossier, qu'il soit à mesure, effectivement, de manipuler la loi et bien dire le droit. Sinon, on peut se retrouver devant des erreurs de justice qui peuvent
peut-être être plus fatales. Vous avez dit la question est importante, il faut sensibiliser les communautés, oui. Et puis sensibiliser aussi l'État, les pouvoirs publics à prendre conscience du cas, et comme ça on pourra savoir les traiter. Mais M. Trésor du Nord, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour, M. Jérôme Ilamedi, bonjour aux 16 invités qui sont là avec vous.
On vous écoute rapidement, oui.
D'après les analyses que j'ai faites, étant un juriste et activiste des droits de l'homme, par rapport au cahier des charges présenté par les Occidentaux, qui est d'ailleurs sombre, je vous dis, j'ai des larmes aux yeux qui coulent comme de l'eau qui jaillit au robinet du métier des journalistes. Il faut d'abord savoir qu'en droit commercial, nous disons que l'être humain est hors commerce. Même les organes qui composent l'être humain sont en dehors, ne peuvent même pas faire l'objet d'aucune utilisation. Mais grande est notre surprise, nous Congolais, de constater que les cas d'enlèvement, les viols, les violences sexuelles à l'est du pays, les trafics d'enfants amenés sous d'autres pieds dans des pistes de vente, ces pays sont devenus une monnaie courante en République démocratique du Congo. C'est aussi la même place dans les Noirs que les francs congolais, messieurs les journalistes. C'est tellement déplorable. Les Congolais, au jour d'aujourd'hui, aux yeux du monde, ils sont devenus de véritables pleurnichards. Or, nous avons tous les services de sécurité dans ce pays. Mais, dans le cas des Français, j'ose croire que la sécurité en occupe. Nous avons les services de sécurité grâce occupé des cas de séjour. Mais je me demande pourquoi nous avons dans ce pays la DGR, elle ne sait pas travailler, pourquoi pas qu'elle est mal motivée, elle n'est pas motivée, que ce soit matériellement, moralement, financièrement. Elle est habitée à un programme, elle est habitée à un devoir caractérisé parce qu'on ne sait pas s'occuper.
D'ailleurs, quand on a fait les débats la fois passée sur le moratoire du gouvernement sur l'adoption internationale, on a eu quand même des explications de la région politique qui avait beaucoup de choses qui se faisaient sous coulisses. Il fallait quand même qu'on clarifie la situation. Mais tout à l'heure, il y a un autre ami qui le disait, il y a eu une forte pression. On a vu des pays occidentaux envoyer des délégations demander à la RDC d'élever les moratoires pour permettre à ce que les gens puissent adopter. La RDC disait, mais non, écoutez, il y a une grosse chose qui doit être clarifiée. Mais vous souhaitez que les services de sécurité puissent vraiment travailler sur cette question. C'est pour cela que nous avons évoqué cet exemple que la DGM a saisi ce convoi d'enfants dans les Katanga et présenté à la presse d'ailleurs. Gérard, d'abord Moïse, vous êtes à Bouya, en province d'Ituri. Bonjour Moïse.
Oui, bonjour Gérard.
On vous écoute rapidement Moïse.
Moi, je voulais intervenir dans un autre sens, c'est que nous sommes en train de nous attaquer à la maladie, mais on ne s'attaque pas à la cause du maladie. Si aujourd'hui nous sommes en train de vivre ces fléaux de l'esclavagisme, c'est comme le disait la maman, c'est à cause des Occidentaux. Pourquoi cela? Aujourd'hui, ils ont besoin de minéraux. Et pour avoir des minéraux, ils ont besoin d'une main-d'œuvre. Et la main-d'œuvre la moins chère, ce sont les enfants. Voilà pourquoi ils créent des difficultés, ils créent la vie difficile à nos parents pour que nous soyons vendus. Et dans l'incapacité, et voir l'impossible, on ne peut rien faire. Ce sont les Occidentaux qui créent cela pour leur bénéfice. Imaginez aujourd'hui, combien de pays ont chassé l'Organisation des Nations Unies. Ils ont retrouvé le calme. Aujourd'hui, il y a eu des débats à la RSI, on a suivi cela. C'est à cause de certaines choses qui se passent au niveau même international, et aujourd'hui la RDC est victime de tout cela.
Et pour vous, Moïse, vous estimez que, comme l'ont dit les autres, c'est une question des Occidentaux, ce sont eux qui doivent être engagés dans la résolution de cette question. Alors là, que nous sommes bousculés par le temps, on ne saura pas aller plus loin, Moïse. Écoutons Gérard qui est à Moïse du tout. Rapidement, Gérard, vous êtes avec nous en 45 secondes, hein, votre point de vue pour arriver à lutter contre ce phénomène des trafics des êtres humains, Gérard.
Bon, moi, mon avis est contraire, hein, mes amis qui ont parlé, qu'ils mettent en première position et que la faute incombe aux Occidentaux. Moi, je raisonne autrement, c'est nous-mêmes, parce que les Occidentaux, là, quand ils arrivent, qu'ils trouvent que le terrain est facile et déjà préparé pour leur cause, et là, ils en profitent. Moi, je trouve que c'est nous-mêmes, nous devons être responsables. Alors, parce que les enfants, parce que les gens qui parlent, ils sont là où il y a des mises de minéraux. Ici, à mon institut, il n'y a pas de minéraux, mais il y a des enfants qui font des travaux forcés, même des parents, des travaux forcés, entre nous-mêmes. Je ne vois aucun étranger ici, à mon institut, d'une manière particulière, ou bien dans la Lomamie où nous nous trouvons aujourd'hui, je ne vois pas un étranger qui fait ça. Si ces choses-là existent, même ici, c'est nous-mêmes qui sommes à la base. Voilà un peu ça, M. Pierre.
Voilà, merci beaucoup. Vous estimez que c'est nous-mêmes qui sommes à la base. On va vous écouter, Paul Kebeya, rapidement, en une minute, au niveau des Eurodécis. Quel est le degré de collaboration avec les pouvoirs publics pour arriver à mettre en place des mécanismes efficaces dans la lutte contre cette maladie?
Le plus grand mécanisme, c'est la collaboration. Et dans cette collaboration, lorsque nous avons des histoires à adresser aux pouvoirs publics, nous allons vers eux. Mmh. Et d'autres mécanismes viendront parce que nous voulons consolider cette collaboration pour qu'elle soit vraiment formelle.
Et quand vous dites pour consolider, pour qu'elle soit formelle, est-ce que vous sentez en face de vous les partenaires, qui est le pouvoir public, que ce soit les différents ministères qui sont impliqués, vous sentez qu'il y a ces soucis de pouvoir prendre cette question comme une grande préoccupation pour la RDC aujourd'hui?
Je dirais oui et non. C'est pour dire que parfois il y a de la bureaucratie, mais il y a aussi des gens dans ces différents ministères qui ont vraiment la volonté de nous accompagner dans ces sens.
Voilà, on va écouter rapidement professeur Ignace Ndala. Vous êtes à Colésie, professeur. C'est vrai que la question elle est vraiment importante, et puis aussi un débat très tensionné. Mais alors pour vous, professeur, peut-être en 30 secondes, quelle est votre piste de solution pour qu'on arrive à mettre fin à ces phénomènes de trafic des êtres humains dans notre milieu?
Je dis qu'il faut d'abord dévider la situation socio-économique de la population. Parce que lorsqu'on n'a pas de travail, on crée de n'importe quoi pour avoir de l'argent. Oui. Deuxième piste, je pense qu'il faut, comme notre professeur l'a dit, il faut envisager des campagnes de sensibilisation. Vous allez constater que les gens ne savent pas la matière dont on a parlé ce matin. Et il y a aussi le problème d'identification des citoyens et de toutes leurs activités ainsi que leurs mouvements. Quand je parle d'identification des activités des citoyens, il ne s'agit pas de se limiter à des déclarations de sur papier des raisons sociales de certaines maisons qui œuvrent ici chez nous, celles qui s'occupent de personnes ou de biens. savoir au-delà, vérifier exactement ce qui se fait. Il y a des phénomènes de blanchiment d'argent qu'il faut combattre. Mm-hmm. Des gens qui ouvrent de bars, des gens qui ouvrent des restaurants, alors que derrière, il y a une autre activité qui se passe. Alors, voilà à peu près comment moi j'envisage les choses.
Merci beaucoup, Evo Fignas Ndala. On revient à vous, Janvier Mouraïri, pour terminer cet échange d'une manière plus efficace. Comment on peut arriver aujourd'hui à s'en sortir, peut-être en une minute, pour permettre aussi à Mme Rostand de pouvoir, en espérant de pouvoir conclure.
Bon, en fait, comme je l'ai dit tantôt, il faut que les gens soient sensibilisés, mm-hmm. pour que qu'ils comprennent que l'esclavage existe encore. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'au Congo, il n'existe pas de loi spécifique par rapport à l'esclavage, comme il en existe sur les violences sexuelles, sur d'autres domaines. Et donc, pour avoir pour trouver des dispositions par rapport à l'esclavage, il faut aller dans la loi sur les violences sexuelles, aller dans la loi sur la protection de l'enfant. Donc, des textes épars. Mais nous pensons que c'est mieux d'avoir un texte. Et aussi, il faut trouver des mécanismes, hein, un mécanisme national qui va s'occuper spécifiquement de la question de l'esclavage. Comme il y en a dans d'autres pays.
Dans d'autres pays, voilà, ça c'est important. C'est pourquoi même Adrien disait que cette question qui est évoquée par l'invité a été déjà résolue dans la loi sur les violences sexuelles. Il faudrait une loi spécifique, ça c'est vraiment important. On revient à vous, Florence Wagner-Mestan. On a suivi les uns et les autres aussi en 45 secondes. Ce n'est pas le dernier débat, bien sûr, qui est très important. On peut y revenir. Un mot pour terminer.
Moi, je dis qu'il faut rajouter un plan national d'action. Mm-hmm. Il faut faire aussi une task force interministérielle. Il faut que vraiment les autorités publiques se sentent engagées. Il faut une agence publique pour l'adoption, non plus des agences privées, comme on le disait. Oui. Mais il faut aussi la mobilisation de la population pour dénoncer tous les endroits illicites qui connaissent. Et en même temps, faire changer les habitudes, ne plus laisser les enfants jouer dans la rue ou aller chercher au magasin à côté, parce que c'est là où d'autres mamans arrivent et qui sont payées pour aller les kidnapper. Donc ça va être très dur. On a fait des clips comme ça dans l'Est, avec les radios, en lingala, en français et en kiswahili, pour dire aux parents, s'il vous plaît, faites très attention, même les bonnes peuvent être complices. Donc il y a un rôle énorme avec vous, la presse.
Merci. C'est pas la dernière émission. Vous pouvez donner un contact rapidement, ou si les gens ont besoin de vous contacter, oui, rapidement, s'il y a des cas à dénoncer, rapidement, en 10 secondes, un contact et un numéro de téléphone par lequel on peut vous joindre rapidement.
Bon, je peux déjà donner le mien, c'est 815-316-932.
081-815-316-932. Donc, et puis Rodessic, rapidement, oui, le numéro de téléphone pour rejoindre Rodessic si les gens ont besoin de poser des questions ou soit dénoncer des cas.
Oui, 099-074-28-13.
099-074-28-13. Merci à tous les trois. Merci aux auditeurs. Vous avez été nombreux pour cet échange autour de la lutte contre les trafics des êtres humains. Ce n'est pas la dernière fois qu'on en parle. On pourra revenir. Merci à Hippolyte Kapanga qui a mis en œuvre l'émission coordonnée réalisée par J.R. Lungembo. Je lui fais assurer la gestion du standard et Pierrot et la mise vous la présenter sous la supervision de Martin Seboujango. On retourne parole aux auditeurs sur www.radiocapi.net. Au revoir.